Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9Artree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Créer une maison d'édition. Publié par Dr. Watson chez Coetquen Edition, est un guide pratique consacré au lancement d'une petite structure éditoriale et, en parallèle, aux démarches d'auto-édition. Son propos ne consiste pas à décrire la littérature ou le travail créatif de l'auteur, mais à rendre visible la chaîne concrète qui permet de transformer un manuscrit en livre commercialisé. L'ouvrage aborde les conditions administratives et juridiques de la création, la fiscalité, le référencement des titres, le catalogue, les contrats, l'impression et la diffusion. Il inclut également des éléments relatifs aux calculs économiques, aux droits d'auteur, aux livres numériques et aux obligations professionnelles. Organisé en 4 parties, il va des informations à connaître avant le lancement aux annexes réglementaires et au répertoire de contact. Le livre vise donc un lectorat francophone qui cherche un premier cadre opérationnel pour comprendre les fonctions, les coûts et les responsabilités liées au métier d'éditeur. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, distinguer le projet éditorial de la simple publication d'un livre. Le point de départ du livre est une distinction utile entre publier un ouvrage et créer une maison d'édition. La seconde démarche implique une continuité professionnelle constitution d'un catalogue, sélection ou réception de manuscrits, relations contractuelles avec des auteurs, identification des livres dans les bases de données et organisation de leur présence sur le marché. Cette perspective évite de réduire le métier à l'impression d'un texte personnel. Un éditeur doit penser chaque titre comme une référence intégrée à une ligne et à une offre, avec des effets sur la présentation, le prix, la visibilité et les circuits de vente. Le livre traite aussi de l'auto-édition, mais sans effacer cette différence de fonction. Une personne qui s'auto-édite doit elle aussi résoudre plusieurs problèmes normalement pris en charge par une structure, obtenir un ISBN, préparer un fichier exploitable, choisir un imprimeur et rendre le titre repérable. Le mérite du cadre proposé réside dans cette vision de la chaîne complète. Il rappelle que le livre est à la fois un objet culturel, une marchandise réglementée et un produit logistique. Pour un débutant, comprendre cette pluralité permet de mesurer les compétences à acquérir ou les prestations à confier. Cette approche convient particulièrement aux projets de taille modeste, dont les moyens imposent de définir clairement ce qui sera assuré en interne et ce qui sera externalisé. Deuxièmement, choisir une structure et intégrer les obligations administratives, la création de la maison d'édition constitue un volet distinct, centré sur les choix de structure et sur les formalités qui donnent une existence légale à l'activité. Le livre mentionne notamment le choix de la forme juridique, le CFE et la TVA. Ces sujets sont déterminants parce que le statut retenu conditionne le cadre de facturation, les obligations déclaratives, la gestion des recettes et, plus largement, la séparation entre finances personnelles et finances de l'activité. Le guide ne présente pas l'administration comme une étape secondaire à régler après la publication. Elle intervient au contraire avant la mise sur le marché, car elle organise la capacité à vendre, à comptabiliser et à contractualiser. La présence de la TVA montre également que le prix du livre ne peut pas être traité comme un simple montant arbitraire, il doit être compris dans un ensemble de règles fiscales et commerciales. Pour un futur éditeur, l'enjeu est de relier ambition éditoriale et viabilité administrative. Une ligne de livre cohérente ne suffit pas si les ventes, les paiements aux auteurs et les dépenses d'impression ne sont pas suivies dans un cadre adapté. Compte tenu de la brièveté relative de l'ouvrage, cette partie sert surtout de cartographie initiale. Elle aide à identifier les décisions qui exigent ensuite une vérification auprès de sources professionnelles, comptables ou juridiques actualisées. Troisièmement, construire un catalogue visible grâce au référencement et à la diffusion, le référencement sur les bases de données. Le catalogue et la diffusion-distribution figurent parmi les thèmes centraux du livre. Ils mettent en évidence une réalité souvent sous-estimée : un livre imprimé ne devient pas automatiquement accessible aux lecteurs, aux libraires ou aux bibliothèques. Il doit être identifiable, correctement décrit et intégré à des circuits qui rendent possible sa commande et sa circulation. Le catalogue donne une cohérence à la production de l'éditeur et permet de présenter les titres comme un ensemble plutôt que comme des parutions isolées. Le référencement, de son côté, relie chaque livre à des informations normalisées telles que son identification et ses caractéristiques commerciales. La diffusion-distribution désigne enfin une fonction plus large qui concerne la présentation des ouvrages au point de vente et leur acheminement. En les réunissant, le guide incite le créateur à penser la commercialisation dès la conception du projet. Le choix d'un tirage, d'un prix ou d'une date de sortie dépend en effet des possibilités réelles de vente et de stockage. Cette partie est particulièrement utile pour corriger une vision centrée sur la fabrication. Elle montre que la visibilité repose sur des informations fiables, des interlocuteurs et une organisation suivie. Les avis favorables décrivent justement le livre comme un moyen de saisir les problèmes dans leur ensemble. depuis la structure jusqu'à la question de la diffusion. Le lecteur doit toutefois compléter ses repères par une étude actualisée des prestataires et des conditions de marché. Quatrièmement, encadrer les relations avec les auteurs et calculer l'économie des titres, le livre aborde les obligations de l'éditeur, le contrat, le calcul des droits d'auteur et le point mort. Cet ensemble relie directement la responsabilité envers les auteurs à la gestion économique de chaque publication. Le contrat ne constitue pas un simple document administratif, il précise le cadre dans lequel une œuvre peut être exploitée et rémunérée. Il oblige donc le porteur du projet à clarifier les droits concernés, les conditions de rémunération et les engagements respectifs. Les droits d'auteur ont aussi une conséquence budgétaire, puisqu'ils doivent être anticipés avec les frais de préparation, de fabrication, de promotion, de diffusion et de stockage. La notion de point mort apporte une logique de décision. Un titre doit atteindre un niveau de vente suffisant pour couvrir ses coûts. Même sans fournir une méthode exhaustive de gestion, le livre attire ainsi l'attention sur la nécessité de chiffrer avant de publier. Cette vigilance est essentielle pour les petites structures, qui disposent rarement d'une trésorerie leur permettant de compenser durablement des tirages mal calibrés ou des retours importants. Le traitement de ces thèmes distingue l'activité éditoriale d'une activité de publication occasionnelle. Il rappelle que défendre un catalogue suppose de tenir ensemble qualité du texte, règles contractuelles et équilibre financier. Les lecteurs recherchant des modèles détaillés ou des simulations complètes devront néanmoins mobiliser des ressources complémentaires, car certains avis jugent les explications trop générales. En dernier lieu, faire de l'auto-édition un parcours technique et réglementé. Une partie spécifique est consacrée à l'auto-édition et à la publication d'un livre avec la demande d'ISBN et le recours à l'imprimeur. Ce choix élargit le public du guide, il ne s'adresse pas uniquement à qui envisage une entreprise éditoriale durable, mais aussi à la personne qui souhaite mener elle-même la parution d'un titre. Le traitement proposé souligne que l'auto-édition ne supprime pas les tâches éditoriales. Elle les concentre sur une même personne qui doit coordonner préparation du livre, identification, fabrication et mise à disposition. L'ISBN joue ici un rôle structurant, car il permet d'identifier une édition dans les échanges commerciaux et documentaires. Le choix de l'imprimeur engage quant à lui des décisions de format, de quantité, de qualité matérielle et de coût. Ces variables influencent la marge possible comme la capacité à répondre à la demande. Les annexes, qui rassemblent des textes réglementaires ainsi que des adresses d'imprimeurs, de médias et de centres régionaux du livre, prolongent ce caractère utilitaire. La référence à la loi Lang replace également le prix du livre dans un environnement réglementé propre au marché français. La limite de ce dispositif et son exposition au vieillissement contact, règles pratiques et solutions techniques doivent être vérifiées au moment du projet. Sa valeur principale demeure donc l'orientation initiale qui aide à établir une liste de démarches plutôt qu'à improviser la publication. En conclusion, créer une maison d'édition s'adresse avant tout aux personnes qui envisagent de lancer une petite structure éditoriale, de publier un premier catalogue ou de s'auto-éditer dans le contexte français. Il peut également servir à des auteurs qui veulent mieux comprendre les opérations habituellement situées en amont et en aval de leur manuscrit contrat. ISBN, fabrication, prix, référencement et diffusion. Son bénéfice pratique réside dans la mise en relation de ces étapes, au lieu de présenter l'éditorial comme une seule affaire de sélection de textes. Le livre décrit un ensemble de responsabilités administratives, économiques, contractuelles et logistiques. Cette vue globale aide le lecteur à établir un ordre de travail, à repérer les décisions qui conditionnent la commercialisation et à identifier les domaines où un conseil spécialisé sera nécessaire. Par rapport à des manuels plus techniques consacrés exclusivement au droit, à la comptabilité ou à la fabrication, l'ouvrage se distingue par son format d'orientation transversale et par la place accordée simultanément à la création d'une maison d'édition et à l'auto-édition. Les annexes réglementaires et les listes de ressources renforcent cette vocation de guide de démarrage. Les retours disponibles invitent toutefois à ajuster les attentes. Certains lecteurs apprécient sa clarté et son efficacité pour obtenir une vision générale, tandis que d'autres regrettent le manque de détails. Il convient donc de le lire comme une première feuille de route, à compléter par des sources actualisées et par un accompagnement professionnel pour les choix juridiques, fiscaux et contractuels. Si vous souhaitez soutenir Dr. Watson, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.